Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis toujours, évidemment, même au cœur de l'été, même à quelques jours de la reprise, en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Johan Crochet, bonjour tout le monde. Oui, Johan, ça approche, hein. On enregistre le 15 août en cette semaine de Ferragosto, donc on n'est plus qu'à J-4 de la première journée de Serie A. Donc ouais, c'est toujours un moment particulier la reprise. On a toujours hâte de voir un peu les nouvelles équipes. On sait qu'on va se gaver de matchs, Johan, ce week-end. Donc ouais, j'ai vraiment impatient de retrouver notre championnat qu'on aime tant.
C'est le moment le plus excitant jusqu'à ce qu'on voit que toutes les journées, il y aura des matchs les vendredis soirs ou le lundi soir. Et ça, c'est tout de suite beaucoup moins agréable. Mais écoute, on fait avec. Hein, c'est la programmation du football italien et de nombreux championnats désormais qui sont ainsi. Guillaume, on va revenir sur le club qui a le plus dépensé cet été en Italie. Et c'est l'AC Milan avec une claire révolution en profondeur de l'effectif, des joueurs importants qui sont partis, des joueurs qui étaient là depuis quelques temps, beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Le premier élément, Guillaume, c'est que les recrues ressemblent vraiment à ce qu'aime Geoffrey Moncada, qui est donc le directeur de la cellule de recrutement du Milan aujourd'hui, quoi, on va dire ça comme ça, qui a des fonctions un petit peu élargies, forcément, avec le départ de Maldini et Massara de la direction technique et sportive. On dressera un petit peu la liste, hein, tout à l'heure, Guillaume, des joueurs qui ont été recrutés, mais on a vraiment des joueurs dynamiques, puissants, techniques, qui vont mettre de l'intensité, qui sont capables de faire des gros changements de rythme. on va en parler, il y a le rééquilibrage entre l'aile gauche et l'aile droite de Milan, où il y avait une, on l'a souvent évoqué, hein, il y avait une différence qui était beaucoup trop importante entre les deux côtés du Milan, et ce qui faisait que le jeu penchait clairement, très clairement d'un côté, et ce qui pouvait le rendre un petit peu trop imprévisible aussi, ce Milan de la saison dernière et de même de la saison d'avant, marqué par le Scudetto. On avait le sentiment que parfois il y avait un. Que Moncada était peut-être un peu bridé par Maldini et Massara, qui travaillaient un peu à l'ancienne. En fait, qui travaillaient Maldini comme, avec l'exemple de ce qu'il a connu en tant que joueur, en fait, et Massara de l'exemple qu'il a connu avec un directeur sportif comme Sabatini, c'est-à-dire en se reposant beaucoup sur les agents, sur leurs connaissances italiennes. Ils n'étaient pas trop dans le profil data, jeune joueur, ce genre de choses-là. Donc là, on a fait confiance à Moncada du côté des propriétaires du Milan.
Mais d'ailleurs, ouais, tu l'avais eu en interview, hein, Geoffrey.
Ouais, Geoffrey, Moncada, ouais,
pour ton autre podcast, Prolongation.
Exactement.
Mais d'ailleurs, tiens, première question que j'ai envie de te poser pour parler quand même. C'est une première révolution quand même dans l'été du Milan, ouais. Au-delà du mercato. Le départ du Maldini a été quand même un énorme choc. C'était au lendemain de la dernière journée de Serie A au niveau du timing. Donc c'est vrai que le mois de juin des tifosi du Milan, tu as eu la retraite d'Ibra, le lendemain tu avais le départ de Maldini et Massara. Alors après, on va parler du départ de Tonali, donc c'est un mois de juin assez compliqué, contrairement au mois de juillet, voilà, qui a été un peu plus euphorique sur le mercato. Mais en tout cas, toi, qui as pu parler avec Moncada, on rappelle qu'il est quand même quelqu'un d'assez discret,
ouais.
Au point que ce qui est assez drôle, c'est qu'avant qu'il ne soit, on va dire, sous les feux des projecteurs, il y avait une ou deux photos qui étaient toujours recyclées, ouais, dans les médias. Parce que personne n'avait de photo de Moncada, donc il a quand même pris cette lumière-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a surpris ? Est-ce que tu penses que son profil aujourd'hui, on va dire, un peu de… alors, ce n'est pas directeur sportif, mais voilà, il a vraiment eu une promotion, on va dire, dans les choix, ouais, de stratégiques du Milan. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui peut lui correspondre, selon toi ? Est-ce qu'il est prêt pour ce genre de rôle-là ?
Bah, alors après, je veux pas, je suis pas un intime de Moncada. Hein,
donc, non, mais évidemment, mais
de ce que je ressens, c'est surtout que je suis pas perçu. Enfin, je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit attiré follement par la lumière, en fait. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué quelque chose dans les annonces du Milan des si, transferts, Guillaume.
Il y a plus que les joueurs.
Et voilà.
Et, oui.
Et ça, c'est un premier signal, c'est que. Voilà, Maldini et Massara qui se mettent en scène avec les joueurs lorsqu'ils signent, etc. Moncada et Furlani, hein, parce que Furlani, c'est la même chose, hein, qui est l'administrateur délégué, qui lui est maintenant un peu à 360 degrés, en fait. C'est que il y a la partie sportive, il y a le développement, il fait beaucoup de choses, hein, Furlani. Donc c'est vraiment la grosse figure du Milan aujourd'hui, notamment médiatique, hein, aussi, parce que Moncada, on le voit pas s'exprimer. Je veux dire, Moncada, il fera pas du Maldini à aller en avant les matchs, tu sais, répondre aux questions de DAZN ou de Sky. Bon, en même temps, c'est pas ce qu'il lui demandait, hein, mais donc la lumière, je pense pas qu'elle intéresse. Le métier de scout, d'organisation d'une cellule de recrutement, je pense que c'est vraiment ce qui le passionne. Avec plus d'implication dans la stratégie sportive, je pense que ça l'intéresse vraiment. Et ensuite, c'est surtout moi ce qui me marque avec lui, c'est sa compétence, en fait. Pas simplement sur la connaissance des joueurs ou du milieu du football, parce que ça c'est évidemment très important, mais sur sa vision du développement de jeunes footballeurs, sa vision de comment une équipe doit jouer au football aujourd'hui, sur la vision de ce qu'un entraîneur doit être capable d'apporter à un groupe, sur comment faire la cohésion dans le groupe, sur je trouve, pour quelqu'un d'aussi jeune, je crois qu'il a bonne trentaine d'années, mais je me rappelle même plus de son âge exact. Je sais pas, il doit avoir peut-être, je vais dire entre 35 et 40, à peu près, aux alentours de 35, je dirais. C'est quand même quelque chose de. Pour lui, en tout cas, c'est une belle. Ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que pour lui, c'est une belle marque de confiance de la part de Redbird, surtout. Parce qu'ils auraient très bien pu dire, Maldini et Massara, c'est terminé, et on va chercher, je sais pas, un Sartori, par exemple, qui a fait l'Atalanta, qui est à Bologne aujourd'hui, directeur technique, etc. Non, on a choisi la voie interne avec Moncada, un profil jeune, etc., en qui ils ont confiance.
Il a 37 ans.
37 ans, voilà. Donc tu vois, pour lui, c'est vraiment un step supplémentaire. Et on le voit, il a eu vraiment les coups des franches avec, évidemment, Fourlani au-dessus, avec qui il faut parler, échanger, négocier peut-être parfois, qui ensuite, lui, est en contact avec Redbird, même si
Montréal peut l'être aussi.
Voilà, c'est quand même beaucoup plus de... Même s'il ne cherche pas la lumière, il est forcément aujourd'hui plus dans la lumière parce qu'il est exposé, parce qu'aujourd'hui, on a clairement le sentiment que ce sont ses choix.
Et tu sais, Johan, tu parlais tout à l'heure des photos des joueurs. Alors, c'est vrai que ça peut paraître anecdotique, mais c'est tellement symbolique parce que... En fait, c'est vrai que le départ de Maldini n'a pas été compris par beaucoup de monde, par beaucoup d'observateurs. Et après, alors avec les interviews, les langues qui se sont un peu déliées, hein, même si les principaux intéressés, Maldini et Massari, n'ont toujours pas parlé. Mais en tout cas, ce que Redbird a expliqué et laissé filtrer via Fourlani, via Scaroni aussi, qui est l'administrateur délégué du club, en fait, Redbird, ce que Redbird reprochait en fait à Paolo Maldini, il dit, c'est un peu de ce fonctionnement en solitaire.
Ouais.
Et en fait, ce manque de concertation, de groupe, où en fait, par exemple, Scaroni disait, bah, par exemple, lui, il doit gérer le nouveau stade, la création du nouveau stade, et il disait, bah, en fait, moi, au début, j'étais tout seul à le gérer, et Redbird m'a, entre guillemets, imposé à un groupe de, je sais pas, 10-15 personnes, et il dit, en fait, moi, j'ai aucun problème, je me suis adapté, maintenant, on parle, on échange, et en fait, Maldini et Massa, là, marchaient beaucoup en autonomie, les négociations, les joueurs repérés. En fait, c'était vraiment un binôme très fort. Et ce que Redbird avait un peu de mal, Redbird, lui, le fond est plus dans le côté américain de la chose, c'est-à-dire bah, parler, discuter, échanger, voilà, avoir vraiment des groupes de travail. C'est vraiment la parole aujourd'hui dans les bureaux de Casablanca, c'est vraiment de bosser ensemble sur un profil de joueur, mais sur plein de choses. Et le fait qu'aujourd'hui, le joueur fasse une photo 100 personnes derrière, c'est en fait pour dire bah, le joueur signe à l'AC Milan. Il n'y a pas de dirigeant derrière bah, pour dire bah, j'ai négocié. Et voilà, alors après, ce qu'on peut reprocher sur le départ peut-être de Maldini et Massa, là, c'est on va dire la forme. Parce que de ce qu'on a compris, c'est que bah, Maldini est arrivé à un entretien avec Gianni Cardinale et qui lui a dit bah, écoute, c'était un entretien à peu près d'un quart d'heure, 20 minutes en lui disant bah, merci, mais au revoir. Et voilà, c'est plus la forme qui a marqué, parce que les Américains, tu le sais, Johan, c'est pas très, non plus très, très diplomate. Il allait un peu droit dans le sujet, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu comprendre aussi, j'ai pu échanger même un peu avec des spécialistes du marché américain et même de l'achat-vente de clubs en général. Et de ce que j'ai compris quand même, c'est que Gianni Cardinale est quand même très respecté dans le milieu. C'est-à-dire qu'il a quand même plutôt une bonne réputation, contrairement alors à d'autres investisseurs ou d'autres... voilà, mais voilà, j'ai eu quelques intermédiaires au téléphone qui m'ont dit « Mais non, tu sais, Cardinale, il a quand même une très bonne réputation, on va dire, dans le milieu. » Après, c'est certain que quand tu vires, entre guillemets, Maldini de Milan, forcément, à l'époque, c'est un énorme choc.
Tu dois t'attendre à la vague qu'il y a eu, en fait, tout simplement.
Hein, bien sûr.
C'est pas simplement le Maldini qui était directeur technique du champion d'Italie 2021-2022.
Ouais.
C'est surtout le Maldini joueur, en fait. C'est même plus ça, en fait. C'est le Maldini iconique. Le Maldini, là, au club depuis 40 ans. Le Maldini descendant de Cesare. Enfin, on connaît l'histoire, en fait. Donc, c'était pas simplement
un directeur. Il a fait du bon boulot.
Ouais, bien sûr.
Il a fait du bon boulot quand même, en général.
Bien sûr. Mais là, je trouve que c'est intéressant parce que l'organisation avec bon, alors Scaroni était déjà là, mais tu sais, c'est un peu la figure paternelle très expérimentée.
Rompue
un peu au business avec tout le monde, qui sait s'adapter, mais qui en même temps qui sait être ferme et fort, etc. Donc ça c'est lui, c'est le président, mais la figure du président, comment dire, pas forcément.
Ah ben bah, il est pas interventionniste hein.
Ouais voilà, c'est le mot, exactement le mot que
exactement. C'est pas quelqu'un qui va intervenir dans les décisions.
C'est ça. Et justement juste en dessous d'avoir le CEO donc administrateur délégué Giorgio Fourlani qui lui est plus jeune, plus au fait limite du fonctionnement du football d'aujourd'hui, de ce qui doit être mis en place sur le terrain en liaison avec Moncada, je trouve que l'organisation elle est
logique, cohérente.
Ouais, voilà, j'allais dire clair, mais logique, c'est vraiment le mot, quoi. Par rapport à vraiment, j'insiste sur cette évolution du foot, je trouve que l'organigramme aujourd'hui du Milan est paraît tout à fait logique avec, évidemment, il y a d'autres personnes, on va pas tous les citer aujourd'hui, mais notamment chez Redbird, qui travaille sur la data, etc., qui sont en lien avec Moncada, avec Fourlani, etc. Mais là, vraiment, cet été, on a le sentiment que ouais, Moncada, il a pu faire quasiment ce qu'il voulait. Alors, dans les limites de ce, attention, hein, de ce que lui impose Redbird, c'est-à-dire que moi, je pense qu'on... C'est marrant parce que tu vois, quand on va lister les joueurs, il y a plusieurs joueurs à 20 millions. Ou à 20 plus quelques-uns au bonus, tu vois. Mais sur la partie bonus, tu as le sentiment qu'en fait, il y a un socle qu'ils ne veulent pas dépasser, Redbird. Tu vois, c'est peut-être lié à De Ketelaere, hein, qui avait coûté...
35.
Ouais, c'est ça, 35. Et peut-être qu'ils se sont dit, bah, le problème, c'est que si on fait un investissement comme ça et que ça ne marche pas... Alors attention, hein, De Ketelaere, c'est sa première année. Hein. J'aurais aimé que... Et on pourra toujours rediscuter de est-ce que Pioli lui a vraiment fait confiance. Est-ce que Pioli n'a pas trop abandonné trop vite avec De Ketelaere? Moi, je pense que oui. Mais peut-être qu'ils se sont dit, bah, des investissements comme ça... Si ça marche pas, c'est beaucoup plus compliqué à rentabiliser que, bah, c'est simple, avec un De Ketelaere, en gros, tu fais un Reinders plus un Chukwueze, par exemple, tu vois.
Et surtout, De Ketelaere, c'est le plus gros. 5 millions près, ouais, quoi. C'est le plus gros investissement de ces dernières années, hein. Ouais. 35 millions d'euros, on rappelle que Maignan avait été recruté à moins de 20 millions, c'était 15, il me semble, de test.
16, ouais.
Voilà, c'était vraiment des Ketelaere, c'était vraiment des négociations, tu t'en souviens, elles avaient été longues avec Bruges, ça avait été hyper long, donc en fait.
Avec le jet à Bruges, tu te souviens?
Oui, exactement. Donc en fait, c'est vrai que c'est une expérience avec un an de. Avec le recul de cette saison-là, bah, qui n'a pas été productive pour l'instant. On verra bien ce que va faire Ketelaere, probablement à l'Atalanta. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que une espèce de socle qui n'a pas voulu être dépassé cet été après le départ de Tonali, qui avait, on va dire, apporté une soixantaine de millions dans les caisses du Milan.
Alors, Guillaume, le point sur le mercato, faisons-le maintenant. On peut pas dire que Fourlani et Moncada aient chômé, hein, au mois de juillet. Ils ont été très, très, très actifs. J'ai compté 8 arrivées dont 6 majeures. Alors les deux que j'estime ne pas être majeurs, c'est Sportiello, évidemment, le gardien remplaçant en provenance de l'Atalanta, et Romero, le jeune argentin qui était à la Lazio et que Moncada suivait depuis un petit moment. Dans les arrivées majeures, moi, le premier truc qui m'a enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais je vois vraiment deux trucs majeurs. Le premier, c'est la refonte du milieu de terrain. Parce que là, c'est clair, il y a 3 arrivées, c'est le secteur qui a connu le plus d'arrivées. Et ensuite, ce que je disais en préambule, c'est une tentative, on verra si ça marchera, hein, mais en tout cas, ça avait été identifié très clairement en interne, rééquilibrer les zones d'attaque du Milan et faire en sorte que le côté droit puisse être exploité. Alors peut-être pas de manière aussi insistante que le côté gauche, parce que maintenant il y a des mécanismes clairs qui sont créés entre Théo et Léo, mais en tout cas essayer d'avoir une équipe beaucoup moins dépendante d'un seul côté.
Et surtout, ça faisait quand même plusieurs saisons que Milan, voilà, penchait à gauche déjà, et à droite, il y avait quand même un manque criant au poste d'ailier. Ouais. Messias, voilà, est parti au Genoa. Salemakers, voilà, fait ses matchs, mais voilà, il est quand même assez peu décisif, donc... Il y avait vraiment une différence colossale entre les deux côtés. Et c'est vrai que l'arrivée de Chukwueze, hein, qui était aussi assez longue, il y a eu des négociations assez, assez fortes avec Villarreal, bah forcément, tu as un peu le même profil, on va dire, de l'autre côté que les Arbes à gauche. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le danger, Johan, tu as le sentiment qu'il vient un peu de partout devant. On peut aussi souligner l'arrivée d'Okafor, hein, en provenance de Salzbourg.
D'ailleurs, lui, on ne sait pas trop où il va se positionner. Hein.
Même Pulisic, hein, finalement, carrière de Chelsea, alors, il a joué à droite, mais on a vu aussi qu'au tout début, il avait joué un peu à gauche quand Léo n'était pas là. Okafor,
on jouait derrière l'attaquant aussi.
Exactement. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Pioli, en tout cas dans son idée, le 4-2-3 est un peu mis de côté, on va dire, dans la phase avec ballon. Et c'est une espèce de 4-3-3, on va dire, de base, avec un milieu à 3. Et c'est vrai que tu parlais du milieu de terrain. Donc, Tonali qui est parti, là aussi, c'est quand même un énorme choc, hein, Johan, entre guillemets, parce que personne ne s'y attendait, surtout pas un joueur, voilà, on le sait, qui était sur terre depuis très longtemps, qui s'était attaché au club, les tifosi aussi. Donc, c'était une grosse surprise. Mais c'est vrai que cette rentrée d'argent-là a permis à Milan d'investir sur d'autres joueurs. C'est-à-dire qu'avant le départ de Tonali, par exemple, il y avait des profils comme Kamada, qui était visé, qui était gratuit sur le marché. Ouais. Mais avec cette rentrée d'argent-là, eh ben, le mercato du Milan a changé de visage et ces investissements qui ont été faits sur Moussa, tu l'as dit, une vingtaine de millions d'euros, sur Reiners, tu vas nous en parler quand même, qui a un très bon profil et pour moi, c'est quasiment la meilleure recrue de l'été du côté du Milan. Donc, il y a eu vraiment une espèce de refonte du terrain avec, pour moi quand même, Johan, ce poste de numéro 6 qui reste un peu, on va dire, une inconnue. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu dans les matchs amicaux, tu auras Radeklo, Nietzsche en 6 avec Reiners. À voir si Moussa commencera dès l'entame du match, voir ou si c'est l'autostick, mais je pense que ce sera l'autostick qui va quand même plus avancer dans sa phase de préparation. Mais moi, ce poste de numéro 6, Sven, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais voilà, moi, je pensais que peut-être que ce soit Moussa, soit Reiners, et finalement, aujourd'hui, c'est quand même Krunic qui, visiblement, est cantonné à ce rôle-là. Donc, ça peut paraître assez étonnant quand même avec toutes les recrues qui sont arrivées.
Alors, je partage le même étonnement. J'y apporte un petit bémol, c'est que Moussa est arrivé plus tard. Donc, forcément, il fallait trouver une solution en attendant. Je pense que quand Milan sera à plein régime, j'imagine, sans avoir aucune certitude, que ce sera plutôt l'Américain en 6. En attendant, il faut le rappeler quand même que Bennacer revienne de blessure. Parce que si Bennacer revient de blessure, là, ça sera, pour moi, la hiérarchie sera assez claire au poste de 6, ça sera Bennacer. Mais en attendant, parce que pour le moment, Bennacer, c'est janvier et pas avant, quoi. Donc, y a quand même une demi-saison avant ce moment-là.
Et il y a la CAN. Et la CAN en janvier.
Exactement, en aussi. Donc j'imagine plutôt Moussa devant la défense et Loftus-Cheek et Reinders en relayeur en attendant le retour de Bennacer. Mais c'est un milieu. La logique du milieu à 3, pour moi, elle est claire parce que l'année dernière, je trouvais vraiment, j'en parlais, le double pivot devant la défense, ça devenait compliqué pour tout écoper en fait. Parce que tu sais que Léao, son point fort, c'est quand même pas le travail défensif. Brahim Diaz, il se donne beaucoup, mais est-ce qu'il est très efficient ou efficace même dans ce travail-là? Je suis pas persuadé. Giroud, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, mais on a vu aussi que, arrivé en fin de saison, tous les efforts qu'il avait fournis sur les phases sans ballon, ça commençait à devenir compliqué à son âge pour tout enchaîner. Et c'est aussi pour ça que Milan va aussi chercher encore un 9 pour suppléer Giroud, donc plutôt un profil jeune. J'aime vraiment le recrutement. La seule inconnue pour moi, c'est Loftus-Cheek. Je l'ai vu faire des très très belles choses et des choses vraiment très très moyennes. Donc je sais pas, j'arrive pas à évaluer le niveau de ce joueur-là, sachant que c'était en première ligue et que la première ligue est à un autre niveau de l'Italie. Hein, parce que souviens-toi, les performances de Smalling avant de venir en Serie A, c'était pas bon. À la Roma, c'est Smalldini, hein, c'est ça le surnom. Souviens-toi des gens comme Tomori, comme Abraham, comme c'est Matic aussi à la Roma. On a des joueurs qui, quand ils quittent la première ligue, qui viennent en Italie dans un niveau qui est, il faut le dire, à contre-cœur, moins bon, moins rapide, moins intense que la première ligue. Ces joueurs-là sont tout de suite meilleurs. Donc on verra ce que ça va donner aussi pour Loftus-Cheek. Mais j'avais quand même ce petit doute-là sur Loftus-Cheek. On verra ce que ça va donner. Mais sinon, le recrutement est cohérent, hein, Guillaume.
Vas-y. Oui, bien sûr. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a deux choses, moi aussi, je voulais souligner. Et la première chose, tu as commencé un peu à le dire, et c'est vrai qu'il y a eu cette volonté quand même, tu sais, de recruter, on va dire, les joueurs, on va dire, piliers et bases, voire même charnières, pour assez rapidement dans le mercato. C'est-à-dire que Loftus-Cheek et Pulisic sont arrivés hyper tôt, pour vraiment les insérer au maximum cet été, parce qu'on sait que plus le joueur arrive tard, évidemment, plus il faut du temps pour l'intégrer, pour le faire comprendre le mécanisme. Le foot italien, on sait que ça, c'est aussi compliqué au niveau de la tactique. Donc, il y a quand même une volonté d'intervenir assez tôt après le départ de Tonali pour, on va dire, avoir les bases avant de partir pour la tournée américaine au mois de juillet. Et la deuxième chose, Johan, c'est que j'ai l'impression que tous les choix numéro 1 du Milan ont été recrutés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plan B. Alors, évidemment qu'il y en avait, mais tu vois, Moussa, il le voulait depuis juin. À la fin, ils l'ont obtenu. Reiners, ça a été assez long aussi. Mais à la fin, ils ont réussi à l'avoir. Loftus-Cheek, c'était la même chose. Okafor, Okafor, ça arrive un peu de nulle part. Pulisic, il y a eu des négociations aussi avec Chelsea qui ont été assez longues, mais finalement, l'arrivée. Donc, si tu veux, tout à l'heure, tu parlais un peu de limites, voire de limites à pas dépasser. Bah, tu vois, par exemple, le cas Marcus Thuram, Milan l'a pisté à un moment. Par contre, quand l'Inter a offert 6,5 millions de salaire et que Milan s'arrêtait à 5,5, parce que le joueur était entre guillemets gratuit, parce qu'il était en fin de contrat avec le Borussia, Milan n'a pas surenchéri. Donc on sent aussi que de la part de la nouvelle direction du Milan, mais c'est même ça, on peut même remonter ça à l'ancienne, il y a quand même une volonté de ne pas rentrer dans une espèce d'enchère. C'est-à-dire que c'est un club qui va droit dans ses idées et qui ne se prête pas, tu sais, à ce jeu du mercato un peu italien, de ces pistes parfois un peu réchauffées, de on fait jouer un peu les connaissances, les agents, les propositions. J'ai l'impression d'avoir vraiment un club qui est un peu, entre guillemets, droit dans ses bottes et ne joue pas vraiment au jeu des enchères. Et c'est pour ça que vraiment tous les plans A ont été recrutés. Et après, alors, à voir si ça marche ou pas, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées. Et c'est vraiment un 11 qui a été à refaire, notamment le milieu d'attaque, parce que la défense, on en parlait, est quand même plus ou moins la même, avec quelques bémols quand même. Mais en tout cas, voilà, le socle a été refait. Donc, à voir si la mayonnaise va prendre. Il faudra peut-être un peu de temps. Mais en tout cas, voilà, je tenais à souligner ça, parce que j'ai vraiment l'impression d'un club qui va tout droit. Et on voit aussi que c'est un club qui, aujourd'hui, on peut le rappeler, a les comptes dans le vert. Ce qui est assez rare en Italie aujourd'hui. Mais après, la dernière fois, je crois que c'est en 2006, figure-toi. Aujourd'hui, Milan, qui a des comptes dans le vert, ce n'est pas quelque chose qui était gagné il y a quelques années, notamment à l'époque chinoise, où ça a été vraiment l'un des pires moments de l'histoire du club. Donc voilà, il y a quand même une espèce de cohérence à toutes les échelles pour le coup. Et la dernière chose que je voulais souligner, c'est quand même que j'avais l'impression que cette équipe-là avait quand même besoin d'un coup de frais, tu sais, parce que on sentait qu'après le Scudetto, voilà, il y a eu quand même un cycle qui se terminait et je pense qu'il y avait besoin quand même d'un vent de fraîcheur à Milanello. Et c'est vrai que cet été, t'as des nouvelles têtes, t'as une nouvelle concurrence qui s'est instaurée. Donc quand même, je pense que c'était un vent de fraîcheur qui était nécessaire après la fin d'un cycle d'une équipe qui, pour moi, est arrivée à son sommet, évidemment, en gagnant le titre en 2022. Et on l'avait vu l'année dernière, qui est arrivée un peu à bout de souffle en fin de saison.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et ce mercato qui n'est pas terminé d'ailleurs offre beaucoup plus de rotations possibles pour Milan cette année. On sait l'année dernière que c'était compliqué, que Milan est arrivé un peu sur les rotules à la fin de la saison et que il n'y avait plus la même énergie avec sans ballon. Et là, je trouve qu'ils ont non seulement amélioré la qualité de l'effectif, mais aussi la quantité, ce qui était vraiment un élément central dans un mercato qui va peut-être amener encore un ou deux joueurs. Donc là, ce mercato, on parlait de la lumière que prend Moncada sur ce mercato-là. Il y en a un qui va avoir aussi beaucoup plus de lumière, d'attente aussi, c'est Pioli. Pioli, c'est... était très proche de Maldini et Massara. Là, il a quand même beaucoup plus de matériel. Alors, pour l'instant, les résultats sont assez indiscutables hein, pour Pioli depuis son arrivée, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe hein, d'ailleurs. Mais là, il va y avoir des attentes très précises pour Pioli, qui s'est affiché avec un Moncada hein, d'ailleurs. Hein, on y a vu deux, trois photos sorties par, je crois que c'était par le club, hein, où on voyait Pioli et Moncada discuter sans doute stratégie de recrutement au début juillet. Mais c'est clair que les dirigeants dans l'ensemble vont attendre aussi que ces jeunes joueurs-là progressent et qu'on n'ait pas une sorte de revival de ce qu'il y a eu avec De Ketelaere cette saison, où je le répète, hein, pour moi, que De Ketelaere n'est peut-être pas... On ne peut même pas dire qu'il qu'il n'ait pas réussi, sans donner de raison pour l'instant, parce que c'est un peu difficile, qu'il n'ait pas réussi, c'est un fait. Est-ce qu'il a été toujours mis dans les bonnes conditions par Pioli? Moi, je ne pense pas. Quand tu vois que Pioli donnait beaucoup plus sa chance à Messias qu'un De Ketelaar, moi, ça m'a interpellé, ça m'a interrogé quand même. Donc, je me suis dit, bon, quand même, préférer Messias à De Ketelaar, même pour le côté droit d'ailleurs, parce que De Ketelaar l'avait fait en club. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, c'est sûr que Pioli ne pourra pas faire la même chose avec et Okafor, et Chukwueze, et Reinders, et Moussa, etc. etc. Donc,
ce qui est certain, il y aurait pris des résultats. Je pense déjà qu'il sera moins protégé, parce que la saison dernière, il a quand même commis beaucoup d'erreurs aussi. Hein. Ce n'était pas le seul coupable, mais le mois de janvier, tu t'en souviens, des défaites avec Sassuolo, le 5-2 à domicile. Voilà, alors certes, il y a eu une demi-finale de C1, mais on rappelle aussi que si Milan vend la Ligue des Champions, c'est aussi parce que la Juve s'est fait pénaliser de 10 points. Donc, sinon, ça aurait été en Europa League. Donc, Pioli a commis des erreurs la saison dernière, mais cette fois, ben voilà, il a une équipe quand même qui a été refaite. Les joueurs dont il avait validé le profil sont arrivés. Donc maintenant, c'est à lui. Il a du matériel en main. Il a une équipe à on va dire, à parfaire, entre guillemets, parce que la défense, on va dire, c'est la même. Alors, moi, Johan, sur la défense, j'ai quelques doutes quand même, parce que je vois un Tomori, qui a un peu de difficulté. Je vois un Kier qui est un peu en phase descendante. Sa gestion, quand même, est compliquée. Ouais, mais tu sais, c'est quand même le numéro 3 ou 4 hein, dans la défense centrale s'il t'enlève Tomori, Thio, voire Kalulu. Donc, c'est compliqué et c'est une équipe qui prend beaucoup de buts aussi. Hein. En amical, on l'a vu, ils en ont pris deux récemment en match amical à Milanel. Ils en avaient pris beaucoup aussi dans la tournée américaine, 3 contre le Real, 2 contre la Juve, 1 contre Monza. Enfin, on le sait, en Italie, la défense reste importante si tu veux espérer de grandes choses. Et quand tu prends beaucoup de buts, et l'année dernière, j'en avais pris beaucoup, ça reste compliqué. Donc, va falloir que Pioli aussi trouve un équilibre entre la phase offensive, on l'a vu, qui sera faite à coup de pressing assez haut, d'une volonté de récupérer le ballon assez haut sur le terrain. Donc, il y a quand même une volonté d'attaquer. Mais par contre, attention derrière, parce que derrière, voilà, il va falloir renforcer quand même les lignes. Et la défense Tomori Thio, pour l'instant, alors Thio, pour moi, reste, tu vois, paradoxalement, la garantie majeure du milieu en défense, alors que c'est un des plus jeunes. Donc, parce que Tomori, vraiment, il était en difficulté l'année dernière. Kalulu l'a été aussi. Donc, il va vraiment falloir que la défense se stabilise.
Je ne serais pas surpris qu'il y ait un joueur qui arrive. Hein.
Mais après, est-ce que ce serait un titulaire? Ça, je ne sais pas.
Peut-être pas, mais plus expérimenté, peut-être plus
fiable. Ouais, peut-être. Mais en vrai, il y en a besoin.
En gros, faire venir un Kier à l'époque, quoi.
Qui avait été très bon, Kier, d'ailleurs, hein, au tout début. Hein, il a connu une belle période à Milan. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, même dans sa gestion, tu l'as vu la semaine dernière, il faisait un match et puis après, il n'en faisait plus deux. Et aujourd'hui, avec les matchs qui vont s'enchaîner, tu ne peux pas te permettre d'avoir un joueur qui joue une fois tous les trois matchs. Et de ce que j'ai compris, quand même, Pioli aimerait bien faire de Kalulu quand même un défenseur central fixe et plus l'alterner avec dans le couloir droit ou l'alternation avec Calabria. Mais par contre, le problème, c'est que Florenzi, je l'ai vu en match amical. Bon, ça reste compliqué. Alors, il est très sympa, l'ami Florenzi. Il sourit, il tape dans les mains des adversaires. C'est très bien, mais ouais, Dial est souvent blessé. C'est son problème depuis très longtemps. Mais j'ai l'impression que physiquement, Johan, il patine un peu. Ce qu'on peut comprendre aussi, hein. Il a les années qui défilent et puis
il est croisé, hein.
Exactement,
il a du mal à revenir. Hein.
Mais tu vois, la défense, c'est peut-être le point d'interrogation quand même qui me reste dans ce milieu-là. Mais en tout cas, sur le discours Pioli, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, et de toute façon, on va vite le voir. Hein. Dans les 10 premiers matchs et même dans les 4 premiers, Milan commence à Bologne, ce qui n'est pas évident sur le papier, même si Bologne n'est pas dans une phase exceptionnelle de son été, avec Arnautovic qui va partir à l'Inter. Mais tu commences par Bologne, après tu reçois le Torino, tu vas à Rome et tu reçois l'Inter. 4 premiers matchs, je pense qu'il y aura déjà un bilan qui va être fait après le derby. Et après, tu as la Juve, tu as Naples. Donc, le début de saison pour Milan va être assez dense. Donc, je pense que rapidement, que Pioli devra avoir des résultats parce que derrière, on a vu que Cardinal n'est pas du genre à lésiner si on prend des décisions.
Ouais.
Et quand tu as l'effectif aujourd'hui, qui est celui qu'il est, et pour le coup, je pense que personne n'aurait pu l'imaginer après le départ de Tonali. Hein, où l'ambiance à Milan était vraiment très terne. Il y avait beaucoup de colère. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'euphorie à Milan. Il y a eu 40 000 abonnés. Enfin, il y a quand même une équipe qui est portée par un enthousiasme qu'on n'aurait pas pu penser en juin dernier. Donc aujourd'hui, Pioli, quand même, voilà, tu l'as dit, la lumière est sur lui, la pression est sur lui. Et il y aura quand même une attente de résultats. Et contrairement à la saison dernière, pour moi, il n'aura pas le droit à l'erreur.
Pour toi, Guillaume, toujours un peu difficile, mais c'est le jeu pour s'amuser un peu. Qu'est-ce qu'une saison réussie de Milan ?
Alors, selon nous ou selon le club ?
Non, selon toi.
Écoute, selon moi, honnêtement, alors c'est vraiment, faut contextualiser un peu, hein, c'est le mercato des autres clubs.
Bien sûr.
Pour moi, aujourd'hui, Milan, si la MLS prend, peut rivaliser pour le Scudetto. Après, je ne sais pas si ça sera le cas. En tout cas, pour moi, sur le papier.
Et sur la Coupe d'Europe ?
La Coupe d'Europe, alors, on rappelle que Milan, du coup, sera chapeau 3, contrairement à la saison dernière, où c'était chapeau 1 après le titre. Pour moi, la Coupe d'Europe, ce serait déjà bien, je pense, pour le Milan, peut-être tu vois, un huitième ou un quart. Je pense que ce serait déjà quelque chose de réussi de sortir des poules, en fonction évidemment du groupe. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais au niveau du championnat, tu penses quoi, le top 4,
Scudetto ? Non, moi je suis d'accord, il faut lutter pour le Scudetto, ça ne veut pas dire le remporter.
Exactement, bien sûr.
Mais il faut être dans la course pendant longtemps. Quoi. Et il ne faut pas arriver au mois de février avec 15 points de retard. Quoi. Parce que là, tu seras dans l'optique de terminer dans les quatre premiers, mais pas de jouer le titre. Donc voilà, je suis tout à fait aligné sur ce que tu viens de dire.
Mais je pense au club là aussi d'ailleurs. Je pense au club.
Oui, bien sûr.
Alors je pense qu'officiellement, évidemment, devant les micros, sera le top 4, la Ligue des Champions. Mais je pense quand même que la volonté sera quand même de gagner le titre. Parce qu'après un mercato pareil, hormis le départ de Tonali, mais ce mercato est permis grâce au départ notamment de Tonali. Aujourd'hui, c'est dur quand même de se cacher, et surtout, on en parlera dans un prochain podcast, le mercato de l'Inter, alors voilà, selon les avis quand même, voilà, est plus ou moins bon, donc on va en parler quand même, parce qu'à la base, c'était quand même l'Inter qui était favorite, on va dire, avec Naples. On pourra aussi en parler dans un prochain podcast, mais voilà, il y aura, en fonction du contexte un peu du championnat italien de la Serie A aujourd'hui, clairement, Milan est dans les candidats pour le Scudetto 2023-2024. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes.
Non, on est bien d'accord, mon cher Guillaume. Et ça boucle donc notre petite analyse de ce marché des transferts côté milanais. On a hâte de voir ce que ça va donner maintenant sur le terrain, sachant qu'ils vont aussi compléter un petit peu l'effectif. Et il y a peut-être d'autres joueurs qui seront en recherche de temps de jeu et qui iront dans un autre club. N'oubliez pas de nous soutenir en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant le podcast, en le notant également sur Spotify. N'hésitez pas, c'est ce qui nous fait remonter dans les classements et donne toujours plus de visibilité au podcast Calcio EPP. Et nous d'ailleurs, mon cher Guillaume, on se dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast 100% football italien.
Salut, ciao, ciao. Yann.